France Culture.
Plus de 2 ans de vacances du pouvoir, plus de 2 ans sans président. La semaine dernière, Joseph Aoun a été élu président du Liban et aujourd'hui, ce dernier a nommé un premier ministre dans un contexte grave où la paix avec Israël est fragile, où la reconstruction semble vertigineuse, où la confiance dans l'avenir s'est lentement effritée. L'élection de Joseph Aoun est-elle un tournant? Marque-t-elle une nouvelle ère pour le Liban? Pour en discuter, 2 invités ce soir. Maya Kadra, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes enseignante et journaliste franco-libanaise. Vous avez publié en 2023 un livre d'entretien avec Samir Jaja, leader du plus grand bloc parlementaire libanais, ancien détenu politique. Cet ouvrage s'intitule « L'avenir du Liban ». Il a paru aux éditions du Bien commun. Face à vous, Éric Verdeil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en géographie, professeur de géographie et d'études urbaines à Sciences Po. Vous êtes chercheur au Centre de Recherches Internationales, le CERI, et vous avez fait paraître 2 atlas du Liban. Les deux ont paru à l'Institut français du Proche-Orient et au CNRS Liban. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Joseph Aoun, 99 voix. Vote blanc, 9 voix. Souveraineté et constitution, 13 voix. Chibli Malat, 2. Vote nul, 5. La présidence du Parlement proclame Joseph Aoun président de la République.
Une nouvelle ère de l'histoire du Liban commence aujourd'hui. Je jure de respecter la constitution et les lois de la nation libanaise et de préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale de la nation libanaise.
Maya Kadra, on dit beaucoup de cette élection et de son vainqueur, Joseph Aoun, qu'ils ont été imposés par l'étranger, notamment par les États-Unis, par la France, par l'Arabie Saoudite en particulier. Est-ce à dire que la diplomatie au Liban s'est substituée à la démocratie ?
On peut le dire dans ce contexte de crise, après 2 mois qui ont affaibli le Liban, 2 mois de guerre sanguinaire. Cela étant dit, c'est vrai que la démocratie a reculé au profit d'un certain forme de consensus et de pression internationale. Il faut savoir que Joseph Aoun a toujours été le candidat favori des États-Unis parce que, tout simplement, les États-Unis sont le principal bailleur de fonds de l'armée libanaise commandée par le général Joseph Aoun depuis la crise économique en 2019 au Liban.
C'est donc l'Arabie, le chef de l'armée...
C'est le chef de l'armée libanaise qui n'est pas un homme politique. Et on ne l'a jamais entendu s'exprimer sur les choses politiques, sur les crises politiques aussi au Liban. L'Arabie Saoudite, c'était un des pays arabes notoires qui ont apporté leur soutien aussi après une disparition du paysage diplomatique au Liban et du paysage politique. L'Arabie Saoudite s'est complètement retirée parce qu'elle a historiquement toujours joué un rôle au Liban. Et la France, je dirais qu'elle s'est alignée sur cette position saoudo-américaine à la dernière minute, parce qu'au début, la France, d'une manière pas déclarée ni assumée, elle a apporté son soutien dans les petits couloirs du Quai d'Orsay au candidat du Hezbollah, parce que la donne le favorisait, parce que il n'était pas représentatif d'un point de vue démocratique forcément, mais il était soutenu par une milice qui tenait un peu le pays et ses institutions. Aujourd'hui, après la guerre et l'affaiblissement du Hezbollah et ce retournement de situation avec la chute du régime de Bachar al-Assad à laquelle on a assisté, tous ces pays, notamment les États-Unis, ont pu pas imposer, mais convaincre, hein, c'est un peu un euphémisme, les députés libanais de voter pour Joseph Aoun. Et d'ailleurs, je précise, son discours d'investiture était bon, mais il n'est pas issu de la classe politique.
On va y revenir sur ce discours d'investiture, mais est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal dans les termes, ce que vous nous expliquez là, Maya Kadra, dire que la démocratie a reculé d'un côté et reconnaître dans le même temps que le Liban a enfin un président, enfin un premier ministre?
C'est vrai, parce que la crise était devenue insoutenable. La vacance présidentielle était aussi insupportable parce que ça paralysait toutes les institutions étatiques. Et donc avoir déjà un président, c'est remplir un vide étatique et remplir aussi ce poste qui est à la tête de la pyramide, de l'hiérarchie au Liban. Donc ça, c'est le volet positif. Après, Concernant les aspirations démocratiques, c'est vrai que les Libanais auraient peut-être préféré qu'il y ait un président issu du camp qui s'est opposé au Hezbollah, un personnage ou une personnalité politique. Là, on a pour la cinquième fois dans l'histoire du Liban le chef de l'armée, un militaire, qui préside le pays. Ce n'est pas pour critiquer le général Aoun qui, là, promet beaucoup de réformes et qui a tenu un discours étatique qui est à saluer. Cependant, on a toujours cette invisibilisation du politique au profit du militaire qui vient toujours comme une solution providentielle.
Éric Verdeil, qui a vraiment gagné l'élection? Alors est-ce que c'est vraiment Joseph Aoun ou c'est, comme l'a dit un député l'autre jour, Joseph Amon Ben Farhan? Joseph, c'est Joseph Aoun. Amos, c'est le nom de l'émissaire américain qui a été envoyé au Liban. Et Ben Farhan, c'est le nom de l'émissaire saoudien qui a été envoyé au Liban. Autrement dit, un néologisme pour expliquer que c'était encore le fruit d'une ingérence étrangère, cette élection.
Oui, je pense que ce qui est important, c'est de souligner que Joseph Aoun a été élu alors que normalement, les fonctionnaires de première catégorie, comme l'est le général en chef de l'armée libanaise, n'a normalement pas le droit d'être élu en fonction de la Constitution, et que cela a nécessité un amendement spécial et exceptionnel de la Constitution. En réalité, c'est la troisième fois ou la quatrième fois que cela arrive dans les 25 dernières années, mais ça montre déjà que pour quelqu'un qui promet de respecter la Constitution, il est élu d'une certaine manière en contradiction avec ce que dit la Constitution. Alors, je crois que ce qui a été dit sur l'importance des pressions internationales pour imposer finalement Joseph Aoun contre la volonté de toute une partie des acteurs politiques locaux est tout à fait vrai. Et donc effectivement, on peut s'interroger sur la nature du soutien dont il va bénéficier au sein de la population et au sein des représentants de cette population dans le Parlement, puisque là, évidemment, même si aujourd'hui ou il y a quelques jours il a été élu, dans l'avenir, il n'est pas certain que tout le monde continuera de le suivre, hein, en particulier certains partis qui ont exprimé très clairement leur opposition.
Alors à ce sujet, je voudrais vous faire entendre Vincent Jolot. Il s'exprimait sur RCF le 13 janvier dernier et parlait d'une ferveur relative, notamment dans le camp chrétien et maronite, quant à cette nouvelle élection et ce nouveau président.
Au moment de l'annonce de l'élection du président, il y a eu des feux d'artifice partout dans Beyrouth, il y a même eu des tirs en l'air, il y a eu des klaxons, donc il y a eu un mouvement de joie, notamment dans les quartiers chrétiens de Beyrouth et dans les régions chrétiennes, parce que ça fait plus de 2 ans qu'il n'y avait pas de président à la tête de l'État, que le pays partait à volo, qu'il y a eu cette guerre terrible entre le Hezbollah et Israël. Et aujourd'hui, en fait, les Libanais aspirent à un retour à la paix, un retour à la prospérité, à la stabilité. Et donc, l'élection d'un président, c'est un signe positif pour les chrétiens, parce que c'est quand même le seul pays de la région où un président de la République peut et doit être un chrétien, en l'occurrence maronite. C'est pas le cas dans les autres pays voisins. C'est quand même le pays où les chrétiens ne sont pas une minorité numérique. Et c'est un pays avec certaines libertés d'expression, liberté religieuse, liberté de presse. Donc, tout cela est précieux. C'est un signe positif pour les chrétiens, mais je pense pour tous les Libanais.
Le 13 janvier dernier, ça tombe bien, c'est aujourd'hui, donc nous sommes en plein dans l'actualité. Maya Kadra, est-ce que justement ce nouveau président, Joseph Aoun, parviendra à séduire, à convaincre également au-delà de cette communauté chrétienne maronite?
Alors c'est une tâche très difficile. Pour le moment, le consensus politique auquel on a assisté au Parlement, il s'est transposé sur le plan populaire et il y a eu déjà des affiches qui ont été disséminées sur tout le territoire libanais. En fait, le sentiment des Libanais, c'est premièrement le soulagement parce que on n'a plus de vacances présidentielles et que peut-être avec l'arrivée du général Aoun, plusieurs enquêtes pourraient être débloquées, comme l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth, s'il tient vraiment sa parole, de réformer la justice au Liban, de réformer le secteur bancaire, de la séparation des pouvoirs, mettre fin au clientélisme. Tout ça, c'est un discours qu'on ne peut objectivement pas critiquer. Après, c'est vrai que c'est une personnalité chrétienne et qu'au Liban, le président est chrétien. C'est issu d'une certaine forme de consensus, toujours, mais ce n'est pas inscrit dans la constitution.
C'est de la coutume.
C'est de la coutume. Cela étant dit, il n'est pas issu d'un parti chrétien. Il y a des partis chrétiens qui sont présents au Parlement. Et pour moi, il est plus légitime que les partis les plus représentatifs des chrétiens, selon cette fameuse coutume, en attendant qu'elle change, peut-être un jour, devraient, eux, peut-être présenter des candidats. Et donc là, on a une préservation d'un poste chrétien, mais avec une invisibilité des voies politiques chrétiennes. Donc c'est paradoxal. Préserver pour préserver un poste chrétien, ça sert juste à montrer une image qui aujourd'hui elle est un peu surannée. Le Liban aujourd'hui est en crise non seulement étatique, il est en crise de régime. Est-ce que ce régime aujourd'hui il satisfait les Libanais? On a vu que depuis la création du Grand Liban, depuis l'indépendance en 43, il y a plein de blocages. Ces blocages se sont manifestés sous forme de guerre civile, sous forme d'assassinats politiques contre des présidents de la République, contre des personnalités, contre des journalistes aussi. Et donc il y a quelque chose dans cette formule politique aujourd'hui qui est bancale. Il y a des voix qui demandent la fin du système confessionnel, d'autres qui disent... Oui, mais ça va favoriser peut-être les musulmans parce que d'un point de vue numéraire, ils sont plus nombreux. Il y a d'autres voix qui demandent carrément un système fédéral et cette voix commence à être de plus en plus populaire auprès des chrétiens parce qu'un système fédéral au Liban, il va préserver dans leur logique les spécificités de chaque communauté dans un État qui pourrait être laïque. Et donc aujourd'hui, le débat qui devrait être ouvert, c'est le débat sur quel régime politique pour demain au Liban.
C'est ça pour vous le bon débat, Éric Verdeil. D'ailleurs, la question qu'on peut poser au-delà de cette pertinence de la formule, est-ce que cette formule politique et institutionnelle, est-ce qu'elle séduit effectivement les Libanais? Est-ce qu'une autre formule est possible pour tenter de maintenir les équilibres confessionnels qui traversent le pays?
Alors, d'abord, en matière d'équilibre confessionnel, il faut préciser que aujourd'hui, les chrétiens représentent une minorité de la population, contrairement à ce qui vient d'être dit, entre 25 et 35%, ça dépend beaucoup des chiffres qui sont hasardeux et souvent un petit peu cachés.
Il n'y a pas de recensement effectif, justement,
oui, mais
du
mais
point de
vue confessionnel.
On a beaucoup de moyens quand même d'évaluer la population et en raison des départs qui sont très nombreux en raison des différentiels de taux de natalité, on sait que aujourd'hui les chrétiens sont une minorité et le sont de plus en plus. Donc dans ce contexte, effectivement, maintenir une présidence maronite, c'est quelque chose de très fort qui distingue le Liban dans la région et ça constitue sa spécificité. Mais il n'empêche que cette communauté chrétienne est minoritaire et elle est en plus divisée. Dans l'élection qui vient d'avoir lieu, en fait, justement, les leaders chrétiens des partis politiques auxquels vous faisiez allusion n'étaient pas, surtout l'un d'entre eux, particulièrement enthousiastes. Gebran Bassil, le gendre de Michel Aoun, le précédent président de la République...
Qui n'a aucun lien, il faut le préciser, avec l'actuel président.
A voté contre leur parti, c'est celui qui a voté contre. Et jusqu'à quelques jours avant l'élection, Samir Jaja, on lui prêtait aussi l'intention de concourir, de peut-être tenter sa chance dans le nouveau contexte que le Liban connaît aujourd'hui. Donc, sans doute y a-t-il, c'est toujours le cas, une forme d'enthousiasme de voir effectivement cette fonction aujourd'hui remplie par un homme dont les succès militaires, ou en tout cas le fait de ne pas avoir trop déçu sur le plan militaire, satisfait beaucoup de gens. Mais la réalité du soutien populaire à son égard devra être prouvée dans l'avenir. Alors maintenant, je réponds à votre question. Effectivement, le régime a été extrêmement critiqué, notamment depuis 2019, et l'intifada d'octobre, telle qu'elle a été présentée, avec la volonté de mettre fin à un régime marqué par la corruption, marqué depuis par une immense faillite économique, cette horrible explosion du port de Beyrouth, et ainsi de suite. Le problème, c'est comment, par quels moyens, ce régime pourrait-il être transformé, notamment par quels moyens légaux, sachant qu'aujourd'hui, le Parlement est rempli de députés qui, pour la très grande majorité d'entre eux, soutiennent ce régime. Aux dernières élections législatives, seulement 13 députés hors de ces partis qui sont ceux du régime ont pu être élus. Donc, on a un petit peu une interrogation aujourd'hui sur la force politique d'aspiration au changement et surtout de la manière dont elle est représentée dans le jeu politique et dont elle pourrait faire évoluer la situation.
Je voudrais revenir, Maya Kadra, sur ce que vous nous expliquiez un peu plus tôt. Joseph Aoun ne connaît pas de parti, il n'appartient plutôt à aucun parti aujourd'hui. C'est un militaire et c'est sans doute pour cette raison-là qu'il est aujourd'hui président. Est-ce que ce consensus qui l'entoure, ce consensus au sein des institutions libanaises, au sein aussi des diplomates, est-ce que c'est ce qui permet aujourd'hui de gratifier l'armée libanaise pour son travail effectué autour du cessez-le-feu arraché par Israël? Est-ce que c'est une moyen de le récompenser pour cela?
Non seulement pour cela, je reviendrai à l'accord de cessez-le-feu, mais l'armée libanaise s'est illustrée dans son combat du terrorisme à la frontière libano-syrienne. Dans la fameuse bataille Fajr el-Jouroud, l'aube des montagnes, c'est comme ça qu'on l'appelle en libanais, quand des djihadistes de Daesh ont essayé de s'infiltrer dans le territoire libanais, l'armée, elle s'est battue avec beaucoup d'héroïsme. Et donc Joseph Aoun a mené cette bataille jusqu'au bout. Joseph Aoun, et ça c'est un premier signal qu'on peut qualifier de politique, mais en fait c'est la fonction de l'armée. Quand le Hezbollah, pour bloquer le travail du juge d'instruction chargé d'enquêter sur l'explosion du port, ont essayé de porter les armes et d'entrer dans un quartier résidentiel à Beyrouth, soi-disant en marge d'une mobilisation contre le juge Bitar, chargé de l'enquête, le chef de l'armée, Joseph Aoun, a donné l'ordre à l'armée libanaise de tirer sur les miliciens du Hezbollah. Donc c'est à ce moment-là qu'il a quand même gagné une certaine forme de confiance au niveau et au sein de l'opposition au Liban, de l'opposition au Hezbollah, et auprès des Américains aussi, parce que les Américains se sont dit, bon, c'est une armée qu'on finance, et c'est une armée quand même qui prend des mesures concrètes dans la lutte du Hezbollah, même si elles sont timides. Là, concernant le front du Sud, parce que je reviens à cette question sur le cessez-le-feu, c'est vrai que l'armée libanaise, c'est elle qui est chargée de veiller sur le cessez-le-feu. Il y a
avec la FINUL, avec les casques bleus de l'Organisation des Nations Unies.
Avec les casques bleus, et tout est surveillé et supervisé par les Américains. Il y a un général américain qui est posté à Beyrouth et dont la mission aujourd'hui est de veiller à l'application de l'accord de cessez-le-feu. Or, hier, on a assisté à deux bombardements israéliens à Baalbek, le premier depuis l'accord du cessez-le-feu, à un autre dans le sud. À quoi riment ces bombardements? Est-ce que c'est une rupture du cessez-le-feu de la part d'Israël? Où ça illustre quelque chose de plus profond. En fait, il y a eu des informations israéliennes qui ont été communiquées au fameux comité de surveillance de la bonne application du cessez-le-feu, comme quoi il y avait des mobilisations un peu suspectes de la part du Hezbollah. C'est arrivé au général américain. Le général américain a donné un délai de 48 heures à l'armée libanaise pour agir. Or, ça n'a pas été fait, ce qui a entraîné les bombardements israélien. Donc cet accord de cessez-le-feu a donné le droit à Israël de bombarder quand l'armée libanaise n'est pas en mesure de l'appliquer. Et donc on parle d'un cessez-le-feu fragile, on parle d'une armée qui peut appliquer parfois le cessez-le-feu et à certains moments dans certains territoires un peu perdus dans le sud, on n'arrive pas vraiment à désarmer le Hezbollah ou bien à mettre la main sur certaines caches d'armes. Et donc là on est devant un véritable défi, que ça soit pour l'armée libanaise et surtout aussi pour cet accord de cessez-le-feu qui prend fin bientôt.
Hezbollah, dont on précise par ailleurs qu'il a voté du bout des doigts au second tour de cette élection pour Joseph Aoun, mais Joseph Aoun n'était pas du tout le candidat initial de ce parti et de ce mouvement. Éric Verdet, est-ce que vous partagez cette analyse justement sur le cessez-le-feu et plus largement sur l'importance, le poids de l'armée libanaise aujourd'hui, dont on a beaucoup critiqué la faiblesse ces derniers mois, dans le schéma institutionnel libanais?
Je pense que le point fondamental à souligner dans la situation actuelle, c'est l'extraordinaire déséquilibre des pouvoirs qui existe sur le terrain entre une armée israélienne qui a fait la preuve de son immense supériorité en termes d'armement, en termes de renseignement, qui a infligé une défaite, effectivement, qui a surpris beaucoup d'observateurs concernant le Hezbollah. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est à quel point l'armée israélienne a pu mener ses actions, notamment au sud du Liban, après avoir mené les actions qu'on connaît à Gaza, avec l'accord des Américains, l'accord implicite des Européens, dans la question de l'application du cessez-le-feu qui a finalement été décidé à la fin du mois de novembre, au fond, disons que l'avis ou les interprétations qui sont faites par les Israéliens et qui sont communiquées aux Israéliens ne sont pas réellement mises en cause. Il n'y a pas d'enquête indépendante pour prouver les allégations des Israéliens. Donc moi, je pense effectivement que le Hezbollah est toujours en train d'essayer à certains endroits de sauver peut-être des caches d'armes, etc. Mais on sait que les Israéliens ont, et il n'y a pas simplement eu deux bombardements, hein, ça fait pratiquement tous les jours. Il y a eu plus de 500 bombardements considérés par l'armée libanaise comme des violations de ce cessez-le-feu depuis.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de cessez-le-feu concrètement au quotidien
Il n'y a pas vraiment de cessez-le-feu, en particulier dans la zone qui se trouve sous la ligne qui est proche de la frontière. Même donc une partie des bombardements qui ont eu lieu cette nuit, mais aussi dans les jours passés, ce sont sur des postes frontières entre la Syrie et le Liban, dans la région proche de Saïda, etc. Donc, non, en fait, aujourd'hui, les Israéliens font, en gros, ce qu'ils veulent, et quand ils décident qu'ils doivent tirer, ils tirent, et peu importe l'avis de l'armée libanaise. Et alors, on peut aussi signaler que les Français, qui sont théoriquement partie prenante de ce comité, n'ont absolument pas leur mot à dire dans cette affaire, et les Américains couvrent complètement les actions israéliennes.
Mais on a du mal à comprendre, par conséquent, Maya Kadra, le double jeu des États-Unis, de l'Arabie saoudite, de certains pays occidentaux qui choisissent de mettre entre guillemets à la tête du Liban un militaire, peut-être le personnage, le profil le plus à même de restaurer cette forme de souveraineté territoriale libanaise.
Exactement, en fait, surtout là, parce qu'on a un cessez-le-feu fragile, le chef de l'armée aurait pu rester à la tête de l'armée pour veiller à la bonne application de ce cessez-le-feu, parce que là, l'armée, elle est, je dirais pas qu'elle est sans tête, mais il y a une certaine forme de nébuleuse autour du statut du général Aoun. Il est président aujourd'hui, mais il est toujours nommé et appelé dans les médias le général Aoun. Est-ce qu'il est général ou président? Donc il y a un mélange des genres.
Il a changé le tri pour le costume quand même.
Bah, exactement, mais on l'appelle toujours général, donc communément. Là, aujourd'hui, après la formation d'un gouvernement, il y a quand même une priorité, c'est celle du recrutement de soldats pour l'armée libanaise, parce qu'elle est en sous-effectif. Et il faut recruter des milliers de soldats pour veiller à la bonne application du cessez-le-feu au sud du Litani, du fleuve Litani, qui est à 40 km de la frontière entre le Liban et le nord d'Israël. Et outre le recrutement, il faut nommer un nouveau chef de l'armée, un nouveau commandant de l'armée. Aujourd'hui, dans cette urgence de veiller à la bonne application du cessez-le-feu, on a un mélange des genres qui fait que le chef de l'armée est au palais présidentiel. Bon, on ne va pas fustiger cette chose-là, mais au moins avoir des directives claires pour l'armée aujourd'hui qui se trouve parfois désemparée en raison du fait qu'elle est en sous-effectif.
Je voudrais vous faire entendre les réactions de certains Libanais interrogés dans la rue par France 24. Ils réagissent à l'élection de Joseph Aoun.
Je vois en lui un grand avenir, mais le plus important est de nous entraider tous pour qu'un nouveau gouvernement soit formé et travailler à la reconstruction de ce qui a été détruit.
J'espère que le nouveau président se penchera sur les demandes du peuple. Les gens ici sont fatigués. Ils n'en peuvent plus.
Éric Verdeil, on a dit qu'on ne connaissait pas cet homme-là, Joseph Aoun, comme un homme politique. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne connaît pas sa doctrine, on ne connaît pas non plus sa vision. Qu'est-ce qui l'a permis quand même, lors de son discours de politique générale, d'éclaircir sur le plan politique? Qu'est-ce qu'il a annoncé concrètement?
Alors, il a eu un discours qui a été effectivement très largement salué, d'abord au Parlement, par un certain nombre d'hommes politiques, dans la rue libanaise également. Un discours dans lequel il insiste sur la nécessaire reconstruction de l'État, sur la libération du Liban de l'emprise israélienne, sur la reconstruction des destructions causées par cette récente guerre, et, comme le disait tout à l'heure Maya, aussi sur la nécessaire réforme d'un certain nombre de problèmes économiques et financiers, notamment sur la question des banques, et puis bien entendu aussi pour mener cette enquête qui a été suspendue concernant
l'explosion du port de Beyrouth en 2020.
Tout à fait. Donc, de ce point de vue-là, il a annoncé, d'une certaine manière, la reconstruction de l'État libanais, ce qui est une promesse forte, ce qui est une promesse que l'on peut mettre aussi en ligne avec, ou en perspective, avec ce qu'avait dit le président Fouad Chehab, qui avait été nommé en 1958, après un épisode, effectivement, de guerre civile au Liban, en disant qu'il fallait reconstruire un État civil, un État équilibré, entre les confessions, pour promouvoir le développement. Donc je pense que l'armée libanaise dans le pays bénéficie de cette image positive liée aux actions du général Chehab, qui a vraiment une aura très importante, et certainement que Joseph Aoun joue sur ce sujet-là. La question qui va se poser, c'est de savoir quels seront ses moyens et comment pourra-t-il malgré tout agir en partenariat avec la classe politique libanaise pour faire voter ces réformes et aussi avec la communauté internationale pour bénéficier de financements pour mener cette reconstruction.
Avant de parler des moyens, je reste un instant avec vous, Maya Kadra, sur les ambitions. En quoi sont-elles novatrices et fortes, comme vient de le dire Éric Verdeil ? Parce que moi, lorsque j'entends parler de reconstruction de l'État, de réforme du système financier, de transparence faite au sujet de l'enquête menée de la double explosion du port de Beyrouth, tout cela me semble, vu de loin, extrêmement consensuel. Pourquoi ai-je tort ?
Alors, il n'a pas du tout parlé de l'explosion du port de Beyrouth. Il a promis de réformer la justice au Liban et le secteur judiciaire. Cela étant dit, pour la première fois au Liban, on n'a pas le mot mukawama, c'est-à-dire résistance, pour faire allusion au Hezbollah, dans le discours. Pour une première fois, ce n'est pas prononcé. Il y a un rappel de l'importance que l'État détienne le monopole des armes et qu'il prenne aussi les décisions stratégiques de guerre et de paix.
Je vous coupe, pardonnez-moi, le monopole des armes, cela veut dire désarmer le Hezbollah concrètement.
Exactement, c'est désarmer le Hezbollah, et il l'a rappelé. Il a dit, je rappelle, ad-daoula, c'est-à-dire l'État doit détenir les armes. Aucune autre milice n'a le droit de tenir des armes. Donc ça, c'était un tacle très clair à l'égard du Hezbollah, même s'ils ont voté au second tour pour sauver la face pour le général Aoun. Et donc, cette absence des anciens éléments de langage dans les anciens discours d'investiture est quand même un nouveau cap, et c'est une page qui est tournée. Après, sur la réalisation de ce projet très ambitieux, en effet, c'est pas que j'ai des doutes, en fait, il y a beaucoup de travail à faire. Premièrement, quelles sont les réformes qui seront mises en place d'ici l'année prochaine ? Avec l'actuel Parlement, issu d'anciennes élections législatives, où on voit qu'il y a toujours des députés du Hezbollah en nombre considérable, des députés de Nabih Berri, qui est le chef du Parlement depuis X années, indéboulonnable, on ne peut pas vraiment avancer sur les sujets de réforme. Cela étant dit, ce qui serait vraiment un défi, c'est l'organisation d'élections législatives dans un an, parce que le rendez-vous démocratique arrive, en toute transparence et loin de la fraude électorale. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des élections tenues au Liban, il y a fraude électorale, il y a falsification de dossiers, il y a vraiment une certaine forme d'entrisme dans la logique mafieuse dans la logique démocratique préélectorale. Et donc ça, c'est le premier défi, c'est l'organisation des élections législatives, c'est la formation aujourd'hui d'un gouvernement. On a un premier ministre qui sera bientôt investi, c'est le juge international Nawaf Salam, qui est président de la Cour internationale de justice, et donc aussi donc la nomination ou bien la désignation de ministres. Est-ce que ce gouvernement sera un gouvernement de spécialistes ou ce qu'on appelle plus communément un gouvernement de technocrates ou un gouvernement issu des différents blocs parlementaires à l'Assemblée?
Éric Verdeil, qui aujourd'hui pour aider le Liban, pour aider à sa reconstruction? On s'en souvient, après la guerre de 2006, les pays arabes avaient largement contribué à la reconstruction du Liban. Aujourd'hui, ces pays sont bien plus réticents. Qui alors aujourd'hui pour investir au Liban, pour financer sa reconstruction?
Alors effectivement, le contexte n'est pas aussi favorable au Liban qu'il a pu l'être dans les précédentes années, et notamment après cette guerre de 2006. Aujourd'hui, les pays arabes, d'abord, pour beaucoup d'entre eux, notamment ceux du Golfe, c'est-à-dire ceux qui généralement amènent de l'argent, ont été échaudés par la capacité de la classe politique libanaise, dont on parlait tout à l'heure, à éviter les réformes. Et donc, ils attendent d'abord d'avoir des alliés sûrs au pouvoir. Deuxièmement, on peut penser que le contexte géopolitique n'est pas non plus favorable au Liban, au sens où la Syrie va probablement aussi avoir besoin de beaucoup de financement, peut-être aussi dans quelques temps, espérons, un cessez-le-feu à Gaza et de l'aide internationale pour Gaza. Donc, le Liban aura certainement beaucoup moins d'argent de la part des Arabes et de la part des Européens. Et donc, la manière de mener cette reconstruction, de faire de la relance économique, risque d'être effectivement obligée à des priorités, ainsi que une gestion beaucoup plus rigoureuse que ce n'a été le cas par le passé.
J'ai juste rappelé quelques chiffres. Le bilan de la reconstruction, il a été établi par la Banque mondiale à l'automne dernier. Il est encore provisoire, mais il avait été évalué à 8 milliards d'euros. Aucun financement ne devait parvenir à l'État libanais avant cette élection d'un nouveau président. Maya Kadra, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là, selon laquelle dans la région, au Proche-Orient, il y aura bientôt une compétition, justement pour tenter d'attirer les investissements internationaux entre le Liban, la Syrie et, espérons-le, Gaza dans les mois qui viennent?
Bien sûr, il y aura une concurrence. Mais concernant le Liban, il y a déjà des prêts qui sont prêts depuis 2018. Il y a eu le congrès Cèdre pour le Liban, organisé par le président Macron, quand Saad Hariri était encore Premier ministre. Et ce congrès a promis de débloquer des milliards d'euros pour le Liban, pour l'accompagner dans les réformes, pour donner un coup de neuf aux infrastructures aussi, et pour réformer tout ce qui est à réformer au Liban, sur le plan institutionnel, éducatif, mais sur le plan aussi de l'infrastructure. Ces milliards d'euros qui ont été promis au Liban ont été gelés. Justement parce que les différents gouvernements libanais depuis 2018 n'ont pas appliqué les réformes. Donc aujourd'hui, c'est très facile de débloquer des fonds pour le Liban parce que c'est des fonds qui sont déjà en suspens. Je sais que
Éric
en
Verdeil
France
fait non de la
non,
tête.
Mais je suis aussi d'accord avec lui parce que c'est extrêmement difficile. La France en 2018 économiquement, c'est pas la même que la France aujourd'hui en 2025 économiquement. Tous nos indicateurs sont en rouge. Mais cela étant dit, c'est juste pour rappeler qu'il y a une ancienneté de ces promesses de financer la reconstruction au Liban, d'accompagner le Liban aussi dans le processus des réformes. Donc ça pourrait être peut-être plus rapide que pour d'autres pays, justement parce qu'il y a donc cette ancienneté-là au niveau des congrès qui ont été organisés.
Un mot quand même, Maya Kadra, un mot spécifique sur le Sud-Liban, qui est la région singulièrement détruite à cause de la guerre, à cause des bombardements israélien. 40% des villes sont détruites. Aujourd'hui, je parle du bâti. Comment reconstruire spécifiquement cette région-là?
Alors déjà, pour reconstruire, il faut reconstruire sur des bases neuves. Malheureusement, cette guerre a été dévastatrice et pour l'humain et pour les pierres au sud du Liban. Mais ce côté dévastateur montre aussi à quel point l'ampleur de l'emprise du Hezbollah était là. On a bien vu dans l'explosion, mais impressionnante et triste à voir, de plusieurs villages et localités dans le sud qui avaient tout un réseau de tunnels sous des résidences civiles. Mmh. Ces tunnels, les gens du sud, ils en étaient au courant. Mais ils ne pouvaient pas parler, parce que c'est le Hezbollah qui était présent au sud, et pas l'État libanais. Et donc aujourd'hui, ils payent surtout cet aveuglement ou cette politique aveugle vis-à-vis du Hezbollah menée longtemps par l'État libanais. Donc ils étaient pris entre l'enclume et le marteau, l'enclume des bombardements israéliens, et l'ancien marteau du Hezbollah qui a transformé leur région en bastion de la résistance, résister, et il a nourri une partie de la communauté chiite aussi à cette logique-là, à cette logique du martyr, de l'importance du martyr et de l'importance d'être inféodé aussi aux ordres de guide suprême. C'est ça la vilayat al-faqih du régime iranien. C'est que quelle que soit la décision prise par Khamenei, pardonnez-moi, c'est une décision qui ne peut pas être remise en question, et que les chiites au Liban qui sont affiliés au Hezbollah doivent à tout prix concrétiser et obéir. Donc c'est ça le danger. C'est les bombardements israéliens d'une part, oui, mais c'était l'aveuglement de l'État libanais et le recul de la souveraineté au sud du Liban aussi.
Éric Verdeil, vous faites le même constat, ce double diagnostic, la responsabilité israélienne d'un côté, la responsabilité du Hezbollah de l'autre.
Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il va falloir voir, c'est comment on répond aux attentes de cette population chiite qui a été victime de ces bombardements. Et il y a certainement une forme de responsabilité du Hezbollah, c'est évident. Alors, aujourd'hui, le Hezbollah n'a pas disparu politiquement. Il doit réduire ses actions militaires, mais il reste, et il restera certainement, une force importante dans le sud et dans la banlieue sud de Beyrouth. On verra ce que les prochaines élections donneront, et ce sera un test intéressant de la popularité maintenue ou pas du Hezbollah, de l'émergence d'une contestation. Mais je pense que, en tout cas, si l'État libanais ne parvient pas rapidement à commencer à répondre aux besoins essentiels de cette population en matière de logement, en matière d'éducation, d'accès à la santé, par un minimum de reconstruction, la colère va monter au sein de cette communauté chiite. Elle pourrait être instrumentalisée de nouveau à ce moment-là par le Hezbollah. Et donc je pense que ça, c'est un danger aussi auquel le général Aoun et le nouveau gouvernement qui vont être nommés vont devoir prendre en compte et essayer de trouver des solutions. Parce qu'il y a là une urgence auquel il faut répondre.
Et puis Maya Kadra, le Hezbollah agit, opère là où l'État libanais faillit. Ça a toujours été le cas depuis les années 80. Est-ce que le général Aoun est effectivement dans l'urgence, dans ce rapport de force qu'il a commencé à initier avec le Hezbollah ?
Oui, mais d'abord, laissez-moi juste rebondir sur une idée. En effet, il y a une colère dans la communauté chiite, mais cette colère, elle est plus orientée contre le Hezbollah. Aujourd'hui, les langues se délient. Il y a de plus en plus des opposants chiites qui ont été, pendant la guerre, accueillis dans des régions chrétiennes, druzes ou même sunnites, à Tripoli, au nord du Liban, qui se disent « le Hezbollah ne nous a pas protégés et ce sont nos concitoyens qu'on fustigeait il y a encore quelques mois qui nous ont accueillis les bras ouverts et qui nous ont logés gratuitement dans leur maison et qui nous ont ouvert même les portes de leurs hôpitaux. » Et donc cet ennemi diabolisé de l'altérité, l'autre Libanais qui est contre le projet du Hezbollah, a complètement disparu. Et ces gens-là, leurs yeux se sont dessillés en fait. Ils ont vu cette vérité-là. Et la colère aujourd'hui est orientée contre le Hezbollah. Et un Hezbollah à la figure ternie n'est plus un Hezbollah qui pourrait gagner des élections. Il pourrait toujours avoir évidemment des sièges au Parlement, mais je trouve que son aura a reculé et que peut-être on va assister à une nouvelle alternative politique au sein de la communauté chiite, parce qu'on l'a déjà vu aux précédentes élections législatives, il y a eu des listes de l'opposition chiite dans le sud, dans les différents départements. Et ça, c'était quelque chose de nouveau. Il y a même des élus chiites issus de l'opposition au Parlement.
Dites-nous, Maya Kadra, en quelques secondes, car on arrive déjà au terme de cette émission, un mot à propos de Nawaf Salam. Il a été choisi cet après-midi comme Premier ministre du Liban. Qui est-il et que peut-il permettre ?
Alors, Monsieur Verdeil l'a très bien rappelé quand il a dit que c'est les 13 députés du changement qui demandent le changement au Liban, mais que le régime est toujours maintenu par les autres blocs. C'est un candidat qui a été surtout soutenu par les députés du changement et le reste de l'opposition s'est un peu aligné pour ne pas contribuer au blocage institutionnel sur ce choix-là, même si ce n'était pas le premier choix. Nawaf Salam, c'est un juge international, président de la Cour internationale de justice, critiqué pour certaines de ses positions positions au sein des Nations Unies, comme par exemple refuser de condamner la lapidation des femmes en Iran, ça c'était en 2007, et refusant aussi de condamner le régime syrien en 2011 pour ses violences en 2011. Cela étant dit, c'est quelqu'un d'intègre qui n'est pas corrompu, qui n'a pas participé au pillage de l'État libanais, et ça c'est le volet qui rassure, en plus du fait qu'il soit le candidat qui s'est opposé à l'autre premier ministre que le Hezbollah avait proposé, à savoir Najib Mikati.
Bravo pour cette synthèse de fin d'émission et de fin de discussion. Et merci à tous les deux de ces éclairages, Maya Kadra et Eric Verdeil. Merci d'être venus à Question du Soir ce soir.